On s'en va rejoindre Jean Devaux qui est là pour nous commenter l'actualité comme à tous les matins, du lundi au jeudi. Salut Jean, ça va bien?
Salut à vous deux, ça va bien?
Ben oui, ça va bien, certain, avec le soleil, pas pour faire autrement. On est tellement chanceux, vraiment. Ça ne donne pas le goût d'aller en Floride, là, quand il fait
ben
bon
non, ben non, écoute, c'est pas trop chaud, 17 degrés, ouais. Là, c'est parfait. On peut aller faire de la randonnée, de la marche, puis on n'a pas trop chaud. C'est merveilleux comme température.
Journée, ouais. Jean, faut parler de hockey un peu ce matin parce que là, on apprend que le Canadien de Montréal a finalement pigé. On a pigé puis ils ont gagné. Moi, je m'étais dit, hey, on est tellement pas chanceux que à la loterie là, de la LNH, même si on a terminé dans la cave, le nom du Canadien sortira pas. Puis finalement, c'est eux qui vont choisir en premier là, pour le choix là, du repêchage.
Écoute, à un moment donné, la malchance va nous lâcher.
Ben là, à un moment donné, ben oui, ça va.
On peut pas toujours avoir des coups sur la tête. À un moment donné, faut en donner un peu. Écoute, c'est une bonne nouvelle. La seule chose qui est désolante un peu là-dedans, c'est selon la plupart des analystes. Moi, disons, je suis pas un spécialiste là, de tout le potentiel des nouveaux joueurs qui seront éligibles au repêchage. C'est quand même pas une année grandiose.
Ouais.
Il y a pas de Connor McDavid ou d'Austin Matthews là, en herbe là, qui est là qui est prêt à sauver un club là, comme Crosby ou Mario Lemieux l'ont fait. Là. Mais nonobstant ça, il reste quand même que le premier choix, ben en fait les trois premiers choix, mais surtout le premier, ont souvent un coefficient de réussite beaucoup plus élevé que les autres, donc ça c'est une bonne nouvelle. On parle d'un joueur de centre, M. Wright, là, Shane Wright, je crois. Un joueur de centre qui a beaucoup, beaucoup de potentiel, peut-être même être capable de jouer la première année avec le Canadien. On va voir, parce qu'on sait que la position de centre au niveau des Canadiens, là, c'est un problème. On en a à peu près juste Nick Suzuki, là, qui est vraiment là, quelqu'un là, qui se démarque là, de façon là, vraiment exceptionnelle. Là. Écoute, on va voir. C'est une bonne nouvelle. En plus, ça se passe à Montréal. Hein? Mm-hmm. Le repêchage au mois de juillet va avoir lieu à Montréal. Donc, tu sais, les Montréalais, Montréalaises n'ont pas eu beaucoup de raisons de se réjouir des Canadiens cette année. Là, on va en avoir un, OK? On va pouvoir aller à l'aréna. On va pouvoir assister soit en direct ou à la télévision au repêchage. Et en plus, c'est notre club qui repêche en premier. Donc, ça amène un baume un peu sur une saison qui a été excessivement misérable. Et là, le mot est faible. Je pense qu'on est tous d'accord que tu peux pas finir plus loin que 32e dans la Ligue nationale. Là. Donc, ça a été épouvantable. Écoute, c'est une bonne nouvelle, j'espère. Et ça va sûrement teinter le règne de M. Hughes, OK? Oublie pas que, bon, lui commence comme directeur général. Il commence avec un atout dans sa manche qu'aucun directeur général des Canadiens depuis 40 ans a eu, OK? Depuis 42 ans, en fait, a eu. C'est-à-dire un premier choix repêchant. Le dernier, là, pour ceux qui s'en rappellent, ceux qui ont mon âge, c'était Doug Wickenheiser.
Et oui, OK.
Et on se souvient que Doug Wickenheiser, ça n'a pas été un succès, là. Ça n'a pas été quelque chose de très, très profitable pour l'organisation. C'est-à-dire, il y a des bonnes chances que ce soit un excellent joueur de hockey, mais on peut se planter aussi. Il faut faire attention. D'accord. Ça va un petit peu teinter le règne de M. Hughes, qui commence en Lyon, en termes d'atouts dans sa manche. Est-ce qu'il va bien les utiliser? Est-ce que la capacité d'analyse du personnel de dépistage des Canadiens s'est améliorée depuis le départ de M. Trevor Timmons, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup d'erreurs depuis la dernière décennie, on l'a dit et redit. M. Timmons a souvent manqué le bateau en termes d'évaluation des potentiels candidats qu'on peut aller chercher. Écoute, on va tout voir ça. C'est une nouvelle équipe qui est au Centre Bell. C'est vraiment une nouvelle équipe. M. Hughes est là. Il a emmené son monde. Je crois qu'un gars comme Vincent Lecavalier, qui est là aussi comme conseiller, va avoir son mot à dire, sûrement, dans l'évaluation. J'ai hâte de voir ce que la nouvelle équipe va dire. Avant, le Canadien, si on se rappelle bien, ne cherchait que des gros joueurs.
Mm-hmm.
Là, on a vu avec Cole Caulfield que c'est plus nécessairement le cas maintenant. Okay. Il y a Martin Saint-Louis qui est coach, qui est pas nécessairement un géant lui non plus, puis pourtant qui a réussi à faire sa marque dans la Ligue nationale. Je pense que ça va prendre. Le hockey d'aujourd'hui a changé. Le hockey est beaucoup plus rapide. Je pense qu'il faut arrêter de chercher les colosses à 6 pieds 4 puis 6 pieds 5 puis qui pèsent 230 livres, là, comme chez Weber, là, qui sont comme des tours devant le filet, mais qui sont pas très, très mobiles, là. Je pense que le hockey est trop vite maintenant pour ce type de joueur-là. Espérons que les Canadiens vont s'adapter.
Ben, soyons positifs. On va regarder ça aller puis on va constater.
Yannick, ça peut être pire.
Ben, c'est ça. Hein? On peut pas être pire que. On peut pas être plus bas que bas.
On peut pas être pire que 32e.
C'est sûr. Jean, il faut parler un peu d'éducation également. Ce matin, il y a un organisme qui s'appelle École Ensemble qui propose une réforme en profondeur du système scolaire. On dit qu'il. Ben, en fait, c'est un plan pour sonner la fin du système de l'éducation à trois vitesses. On parle d'un système à trois vitesses au Québec. On parle des écoles privées, on parle des écoles publiques. Bien sûr, c'est toute une affaire, ça aussi. Les écoles privées, c'est un débat qui revient là, souvent. On sait que les écoles privées sont très présentes aussi. Qu'est-ce que, selon toi, on devrait réformer dans le système d'éducation qui ne marche pas?
C'est un débat qui revient souvent parce qu'on ne le règle pas. OK? partie. La première des choses, c'est ça. Et je pense que là, l'approche qu'on a eue dans ce rapport-là, écoute, ce rapport qui est immense, OK, qui est très, très gros et qui a beaucoup de recommandations et qui montre deux options. Tu as l'option du modèle finlandais, OK, qui est en fait qu'il n'y a plus d'école privée. Okay. C'est-à-dire que tu réquisitionnes les écoles privées qui existent déjà sur le territoire, là, et tu les remets dans le système public, et les élèves vont à l'école la plus proche de leur lieu de résidence. Okay? Et l'argent que tu sauves avec ça, okay, tu l'as réinvesti dans les écoles pour qu'il y ait plus d'activités pour les étudiants. Tu as le modèle aussi non subventionné, c'est-à-dire que les écoles privées restent, mais ils n'ont plus aucune subvention. Présentement, elles sont subventionnées à 60%. Ouais. Par le gouvernement. Donc, si les écoles privées restent et veulent choisir leurs étudiants, plutôt que d'avoir des étudiants qu'on envoie par le gouvernement, ils vont perdre toutes les subventions. Ça veut dire que tu aurais une augmentation des coûts de l'école privée d'au moins 60%.
C'est plus cher pour les parents.
Okay, ouais. On s'entend, c'est énorme. Écoute, est-ce que le juste milieu se situe entre ces deux extrêmes-là? C'est sûr que moi, je regarde ça de loin, OK? Mes enfants sont plus à l'école primaire et secondaire. Tu regardes ça, là, bon, t'as l'école privée qui est souvent la meilleure. T'as l'école publique maintenant avec des programmes spéciaux qui coûtent quand même pas mal d'argent, hein, c'est loin d'être gratuit, pas mal d'argent. Donc encore là, c'est des gens qui ont un petit peu plus les moyens qui peuvent envoyer leurs enfants dans ces écoles-là. Et t'as l'école publique, le parent pauvre, où il n'y a absolument rien qui se passe comparativement aux deux autres. Et c'est ça qui est pas correct, là. Je pense, moi, personnellement, que ce rapport-là, si tu vas envoyer ton enfant à l'école privée, et le modèle ontarien est comme ça, le modèle ontarien, c'est zéro subvention pour les écoles privées. Okay? Et ça, existe. Okay? Donc, si le modèle privé existe ailleurs et il survit, moi, personnellement, je vois pas pourquoi on devrait subventionner à 60% les écoles privées. Je pense que tu vas envoyer ton enfant à l'école privée, ben paye le prix que ça coûte, tout simplement. Sinon, ben, par contre, si tu fais ça, faut que tu t'assures que les écoles publiques sont performantes.
Oui.
Okay? Faut que tu t'assures que l'argent que tu économises sur le dos du privé, que les parents du privé vont compenser, mais il faut que cet argent-là soit réutilisé dans le secteur public et de la bonne façon. Et ce qui n'est pas évident, là, on s'entend. Écoute, je trouve que c'est un moment de réflexion, ce document-là, qui est important. Je trouve que c'est quelque chose qui est bien ficelé. Maintenant, il faut l'analyser. Il faut regarder avec les spécialistes c'est quoi les tenants et les aboutissants, parce que, bon, ceux qui sont pour le privé disent que c'est épouvantable. Ceux qui sont contre le privé disent que c'est fantastique. Bon, ben, la vérité probablement entre les deux extrêmes, là, comme d'habitude.
Ouais.
Il va falloir qu'on se fie aux gens qui connaissent ça plus que toi et moi. Par contre, je pense que la réflexion est importante. Je pense qu'elle est bien menée. On compare le système finlandais, qui est un système qui marche excessivement bien. Faut le dire, là, excessivement bien. Mais encore là, le système finlandais, si tu le pousses à la limite, là, jusqu'à l'université, ou jusqu'à la gratuité scolaire complète, ça implique beaucoup de changements dans le système québécois. C'est-à-dire que le système finlandais demande aussi beaucoup de réussite. C'est-à-dire que c'est gratuit tout le temps, t'as tout, mais faut que tu marches.
Oui, non, c'est ça. Tu peux pas recommencer 25
notes,
fois, là.
T'as des notes. Tu vas pas au cégep pendant 4 ans.
Oui, non, c'est ça.
C'est ça que je veux dire. Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut analyser. Mais écoute, c'est une réflexion qui est importante. Et comme tu dis, on en parle souvent, mais pourquoi qu'on en parle souvent? C'est parce qu'on le règle jamais.
Oui, c'est ça. Ça revient, c'est cyclique, là. Ça revient dans l'actualité souvent, ça.
Ça peut être le fun de le régler une fois pour toutes.
Oui, non, mais c'est vrai. Puis également, bon, les écoles, tu sais, il y a de bonnes écoles privées. Il y a de bonnes écoles également publiques, mais il y a de mauvaises écoles privées aussi. Puis, tu sais, il y a tout.
Mais moi, je me demande pourquoi l'école privée devrait avoir 60% de financement.
Oui.
Sérieusement, là, c'est une école privée. Ça dit c'est privé. OK, c'est une école privée. Bon, ben, écoute, tu vas envoyer ton enfant à l'école privée qui va t'offrir des programmes spéciaux. On s'entend, on pense aux écoles internationales, hein, on pense à ci, puis à ça, il y a un paquet de modèles dans le privé, là. Tu vas envoyer ton enfant là, ben, écoute, tu payes.
Oui, tout à fait.
Sinon, mettre ça dans l'école publique, mais encore là, il faut améliorer l'école publique à ce moment-là, ça, c'est sûr.
Je suis pas mal d'accord avec ça. Eh bien, Jean, merci beaucoup de nous éclairer là-dessus ce matin. On s'en parle demain, dernière de la semaine pour toi, donc jeudi demain à compter de 7h45. Et je rappelle à nos auditeurs qui ont peut-être manqué ou qui veulent réentendre les commentaires de Jean, ils sont disponibles à tous les jours sur notre site Internet dans la zone audio countrypop.ca. Merci, Jean, à demain.
T'as chance,
salut, bye-bye.